On va d'abord se présenter un petit peu, parce que vous savez qu'il y a eu des changements au CIF importants l'année dernière. Donc vous connaissez évidemment très très bien Roselyne. Certains ont vraiment l'habitude de venir l'écouter. Mais vous ne connaissez peut-être pas le père Bernard Clazen, qui est le nouveau directeur du CIF, qui va se présenter. Et moi, peut-être que tout le monde ne me connaît pas non plus, je suis Aude Ragozin et je suis la nouvelle présidente depuis le mois d'avril. Le père Bernard et moi n'allons pas rester toute la journée, parce qu'après nous partons à Congrès Mission, qui est, on pourrait dire, le grand salon de l'agriculture, de l'évangélisation, qui n'est pas très loin d'ici, et où nous avons un stand, parce que c'est important pour nous d'arriver à se faire mieux connaître. En revanche, il y a d'autres personnes, bien sûr, qui restent ici, avec lesquelles vous pouvez discuter à la pause, et notamment, je parle de ceux qui viennent ici pour la première fois, parce qu'évidemment, la majorité d'entre vous sont ceux qui sont inscrits en deuxième année, qui ont commencé le parcours, qui ont fait leur première année l'année dernière, et qui recommencent cette deuxième année avec cette journée sur Saint-Paul qui introduit au premier cours, au premier trimestre, qui est le trimestre sur l'Église. Mais il y a parmi vous aussi 13 anciens, et vraiment je vous remercie d'être là, et sachez que votre fidélité aux conférences, d'une manière ou d'une autre, vraiment est un encouragement pour nous, et votre manière aussi de parler du CIF et de faire venir des gens du CIF, parce que nous, vous savez que nous recevons tous les nouveaux inscrits un par un, et beaucoup nous disent qu'ils viennent parce qu'on leur a parlé du CIF, parce que quelqu'un qui l'a fait a pu leur dire à un moment ce que ça lui avait apporté, et que ça a été un déclencheur pour s'inscrire à son tour. Donc merci et continuez à faire parler de nous. Et il y a aussi 7 personnes qui viennent ici pour la première fois, qui ont eu l'information de cette journée. J'espère vraiment à vous qui venez pour la première fois. Est-ce que vous pouvez peut-être lever la main? Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y en a 2 qui vont arriver encore. Voilà, soyez vraiment bienvenus ici. J'espère que cette journée va vous plaire. Et j'espère que vous allez, à travers cette journée, un petit peu avoir l'occasion de rencontrer d'autres personnes du CIF. Anne, que vous avez eu à l'accueil, Catherine, qui est là-bas, n'hésitez pas à venir lui parler à la pause. Et Pascal, qui est où? Pascal, qui est avec le pull orange, là, voilà, qui accompagne des groupes. À la pause, vous qui êtes un peu plus nouveau, n'hésitez pas à aller leur parler pour mieux comprendre ce qu'on fait ici. Donc le CIF, un parcours en 2 ans, mais qui peut se faire aussi au trimestre, avec un cours une fois par semaine et un groupe une fois par mois. Et puis n'hésitez pas à parler avec tous ceux qui sont assis à côté de vous, qui vous expliqueront encore mieux que nous peut-être ce qu'ils trouvent au CIF. Voilà, donc je passe la parole à Bernard.
Bonjour, alors bienvenue aussi, bien sûr, de ma part, à tous, mais enfin, moi je suis un nouveau aussi, hein. Donc, je viens à peine de... C'est la première fois, par exemple, que je viens dans cette salle. Je suis déjà venu dans les locaux, mais pas dans cette salle. Donc, je découvre, je fais un peu comme vous. Je suis prêtre du diocèse de Nanterre. Je suis philosophe de formation et j'enseigne à Tir-Larigot à longueur de temps, c'est-à-dire toute la semaine. J'enseigne l'architecture sacrée. Sacrée, ça veut dire pas forcément chrétienne. Par exemple, on passe par l'islam, on passe par les architectures premières. C'est 3 masters que j'ai à l'Institut catholique. Et puis sinon, j'enseigne la philosophie pour les débutants. Voilà, c'est peut-être pour ça que les gens du CIF ont pensé à moi. C'est que j'aime beaucoup les débutants. Parce que il faut surtout pas les dégoûter. Et quand moi-même, j'étais séminariste, puis étudiant, j'ai eu des profs. Alors, je me suis un peu accroché, donc j'ai persisté. Mais des profs qui étaient tellement savants qu'ils ne croyaient pas nécessaire de vulgariser, comme on dit aujourd'hui. Mais vulgariser, ça n'a rien de vulgaire. Voilà, moi, ça a été mon credo. Et donc, je crois que le CIF se trouve également sur ce credo et ce créneau-là. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je m'efforcerai de faire. Vous ne m'aurez pas, vous, les secondes années, puisque je vais prendre un cours cette année en première année, mais Christologie, second semestre, que je ferai à partir de l'iconologie, et pas à partir des concepts des conciles œcuméniques. Et puis, l'an prochain, je prendrai probablement le cours sur la révélation. C'est plus dans mes cordes. Voilà, sinon je suis à Boulogne-Billancourt, je ne sais pas si je vous ai dit ça. Je suis à Boulogne-Billancourt, et ceux qui veulent vraiment savoir quel genre de mec je suis, vous allez sur KTO, et vous regardez l'émission Kézako, et vous me retrouvez toutes les semaines. Et sur YouTube, c'est encore mieux, vous me trouvez à n'importe quelle heure, dans le métro, dans le train, chez vous, quand vous voulez. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Avec Saint-Paul, c'est super, c'est plein d'enthousiasme, c'est plein, parfois c'est même plein de poésie, mais enfin, il paraît que c'est pas lui la poésie. Bon, je laisse la parole.
Bonjour à tous. Il va pas commencer à dire du mal de Saint-Paul, hein, sinon on va pas s'entendre. Voilà, bonjour à tous, je vais mettre là-bas parce que là j'ai le truc dans l'œil. Alors, ceux de deuxième année, et puis les très anciens, et puis les tout nouveaux. Voilà, une journée sur Saint-Paul, justement, pour vous donner envie de le lire et vous montrer que Paul n'est pas l'affreux moraliste, misogyne, compliqué, épouvantable râleur qu'on dit, mais que c'est un génie, je crois, à mauvais caractère. Mais finalement, c'est sympa parce que nous aussi, on a le droit d'avoir un mauvais caractère. Voilà. Alors, pour les deuxième année, pour ceux qui entrent en deuxième année, cette journée est le début de leur cours sur l'Église. Voilà, on a voulu commencer le cours sur l'Église par cette journée sur Saint Paul parce que Paul est totalement indissociable des premières communautés chrétiennes qu'il a fondées. Je vais vous expliquer ce terme, hein, fonder. C'est évidemment toujours un peu dangereux d'employer des termes comme ça, je m'explique. Mais c'est vraiment ces débuts de l'Église que je voudrais présenter et je voudrais surtout vous montrer deux choses. L'Église commence dans les crises, ça va toujours mal dans l'Église, et l'Église commence par l'inventivité, la créativité. Faut inventer l'avenir. Voilà. Et du coup, c'est très actuel. Alors, commençons par le commencement. Pour me suivre, vous avez un dossier Parme. J'aime bien la couleur. Dans ce dossier, vous avez premièrement Paul, fondateur d'Église, avant-propos, introduction. On va avoir 4 plages dans la journée, hein, 2 ce matin, 2 cet après-midi. L'introduction, c'est la première de ces plages. Tout est intégralement rédigé, donc vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Juste vous notez quand vous avez l'impression que vous ne comprenez rien, là vous intervenez, ou que je dis des choses aberrantes, et là vous notez et vous interviendrez après, d'accord ? Et ensuite, vous avez un plan fondateur d'Église, un plan des 3 autres parties, avec chaque fois des textes, on verra au fur et à mesure. L'essentiel est vraiment écrit là-dedans, donc vous n'avez pas besoin de noter à toute allure. D'autre part, ces papiers vont se retrouver sur le site, on peut y accéder, et je crois que l'ensemble enregistré aussi, il sera Aude. Est-ce que ce qui est dit est enregistré et mis sur le site ? Bon, enfin, je vous fais peut-être des promesses de Gascon. Oui, voilà, vous retrouverez tout. Donc, vous épuisez pas à gratter. Par contre, si vous m'entendez pas, parce que la salle est très difficile, hein, si vous m'entendez mal, si vous n'y comprenez rien, si vous paraît que je dis des horreurs, vous levez tout de suite la main. Je suis prête à répondre aux questions. Et de toute façon, en plus, à la fin de chaque plage, on fera un temps de questions. Ça va ? Bon, alors, si on est d'accord, je commence en disant que, première chose, l'Église n'est pas en plus dans le parcours du CIF, elle vient pas après, elle est constitutive et ça va être le mouvement de Paul. Paul, devenu disciple de Jésus-Christ, commence par rassembler. Voilà. L'Église, c'est ce rassemblement nécessaire de ceux qui croient, c'est un mouvement interne. On ne peut pas croire tout seul, on croit en se rassemblant. L'Église, ça veut dire rassemblement. Je vais m'en expliquer un peu plus. Je m'explique d'abord sur le fait que j'affirme à la fois que Paul est fondateur d'Église. Vous voyez le pluriel ? Ça va ? Et qu'ensuite, ça commence, un seul fondement, Jésus-Christ, Paul n'a pas fondé l'Église. Donc voilà, il y a une petite incohérence, sauf que dans un cas c'est fondateur des églises au pluriel, et dans l'autre cas c'est il n'a pas fondé l'église au singulier. Alors, je m'en explique. D'une certaine façon, le mot fondateur est piégé. Jésus n'a pas fondé non plus l'Église comme on fonde un club de foot ou une chaîne de grands magasins ou une start-up qui va faire fortune. Elle l'a fait d'ailleurs, hein. 2 milliards de chrétiens quand même, c'est pas mal. Voilà, il n'a pas fondé l'Église en ce sens-là. Non, il a rassemblé et puis après ils se sont dispersés. Quand il est mort, il n'y a plus personne. Ça, c'est assez simple. Hein. Et en fait, Paul va dire que Jésus est le fondement, le seul fondement de l'Église, et que c'est sur ce fondement que lui, Paul et d'autres vont bâtir. Alors, on l'a en fait montré de façon comme une parabole imagée. Notre vidéoprojecteur est appuyé sur un livre, une encyclopédie qui s'appelle Jésus. Voilà, c'est le fondement. À partir de là, on construit. En fait, on peut dire aussi, à propos de Jésus, et là, je m'appuie sur ce que disait Monsieur Maurice Vidal, qui est un sulpicien dont avec qui j'ai beaucoup travaillé, que j'ai beaucoup aimé, que, et ça, je viens sur Saint Jean, que Jésus en croix, en finalement confiant l'apôtre, confiant le disciple bien-aimé à sa mère et sa mère au disciple bien-aimé, fonde l'Église, parce que le disciple bien-aimé représente l'Église, hein, fonde l'Église, il dit par voie de dessaisissement. Voilà, lui s'en va, il s'en dessaisit et il confie à d'autres. Et donc, Paul est un de ces autres, au fond, qui considère que Jésus lui a confié de bâtir, de construire sur le fondement. Et à ce moment-là, Paul se met à rassembler, à fonder au sens plus pratique des petites communautés qu'il va appeler Église. Alors là, on fait un peu de grec, si vous voulez bien. Moi, je crois que c'est lui qui a utilisé le premier le mot pour les chrétiens. Le mot « église », ça vient du latin « ecclesia », d'où « ecclésiastique », et en fait, c'est un mot grec. « Ecclesia », c'est pour ça que j'ai mis des « cas », parce qu'en grec, c'est des « cas ». Transposé en français. C'est un mot grec, et le mot « église » a une « ecclesia » a une très vieille existence dans la langue grecque. Ce n'est pas Paul qui l'invente, c'est là depuis longtemps. Mais quand Paul l'utilise, il a au fond deux sources. Le mot lui vient par deux canaux différents. Premier canal, le plus évident, l'Ecclésia dans les cités grecques, et c'est encore vrai sous l'Empire romain, l'Ecclésia dans les cités grecques, c'est l'assemblée du peuple. Alors, anciennement, dans les cités grecques, quand elles étaient libres, Athènes, Corinthe, etc., c'était l'assemblée des hommes libres qui venaient pour voter les lois et élire les représentants du peuple qui allaient former l'exécutif. Voilà. L'Ecclésia, c'est l'assemblée des hommes libres. Dans les cités grecques, il faut dire des hommes parce que les femmes n'existaient pas. Je suis désolée, mais les femmes étaient à la maison. Ça, c'est très grec. Et des hommes libres parce qu'il y avait une énorme population esclave, plus les commerçants, ceux qui passaient par là. Mais en gros, ça veut dire qu'on excluait les femmes et les esclaves. Paul reprend ce mot et il va l'appliquer à des tout petits groupes qu'il rassemble par la foi commune en Jésus-Christ, et dans ces groupes, il y aura évidemment des hommes, des femmes, des hommes libres et des esclaves. Donc à ces gens qui jusque-là étaient en partie rejetés dans le no man's land de la société, il va dire, mesdames, messieurs les esclaves, l'assemblée des hommes libres, l'église de Jésus-Christ, c'est vous. Vous voyez la promotion. Ça va ? Il y a cette première idée, quand on dit « église »,« ecclésia », on dit l'assemblée des êtres humains, hommes, femmes, et Paul dira bien, il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, tous rassemblés, libres. Deuxième canal, Paul est juif, il connaît sa tradition juive par cœur, en bon juif, et il la connaît notamment en langue grecque, puisque très probablement sa langue maternelle est le grec, même s'il sait aussi l'araméen et s'il lit la Bible probablement en hébreu. Or, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, la Septante, le mot « ecclésia » apparaît. Il n'est pas très fréquent, mais dans le Deutéronome, il traduit, et il y a un jeu de mots, hein, c'est « kaal » en hébreu, donc « kaal », « ecclésia », c'est un peu les mêmes consonnes. Il traduit un mot qui signifie « l'assemblée du peuple » en marche dans le désert. Et l'assemblée du peuple en marche dans le désert, elle va où ? Elle va vers la terre promise. Donc, dire à ces nouveaux chrétiens, vous êtes l'assemblée de Dieu en marche vers la terre promise, vous voyez ce que ça veut dire ? Donc appeler un petit groupe une ecclésia, c'est extrêmement lourd. Et ça, il faut y réfléchir. L'Église, c'est ça. L'assemblée des hommes, des femmes, des esclaves, des libres, et en marche vers la promesse de Dieu. Voilà. Donc c'est bien Paul qui, avec d'autres, mais lui pour sa part, a commencé à rassembler des groupes chrétiens et donc à fonder non pas l'Église, mais des églises en leur offrant cette extraordinaire dignité. Voilà. Et s'il fait ça, c'est pour que, et ça je vais essayer de le montrer toute la journée, ces petits groupes de croyants qu'on va appeler des chrétiens, lui il les appelle pas des chrétiens, Paul dit jamais chrétien, parce que le mot chrétien en grec, christianos, a une finale qui, pour des oreilles surtout romaines, est une espèce de marqueur d'appartenance politique. On est hérodien, hérodianos, on est, voilà. Et donc, il veut pas que ça ait une connotation politique. Donc, il dit jamais chrétien, il dit en Christ. Ça veut dire la même chose. Donc, des petits groupes en Christ, et il veut que ces petits groupes en Christ inventent une nouvelle façon de vivre, une façon de vivre en Église. Ça marche, ça ? Voilà. Voilà donc l'introduction que je voulais vous proposer. Et à partir de là, on va avancer. Dans votre polycopier, vous avez un petit passage sur la vie et la bibliographie de Paul. La vie de Paul, comme personne ne sait rien que ce qui est raconté dans les Actes des Apôtres, qui est en partie reconstruit, et je vais en parler, et les lettres de Paul, ça ne va pas durer longtemps. On ne sait pas quand il est né, on ne sait pas quand il est mort. Voilà la fiche, l'état civil de Paul. On sait qu'il est né à Tarse, qu'il était très probablement citoyen romain, pratiquement sûrement, mais il ne le dit pas. Il ne le dit jamais lui-même. Et c'est à peu près tout, et on sait à peu près qu'il est mort à Rome, et on considère que ces dates doivent être quelque chose comme 6 à 67, ou 10 à 67, 68. C'est extrêmement vague, et si vous regardez les ouvrages les plus sérieux sur Paul, vous verrez qu'on se garde bien de donner des dates. Voilà. Quant à la bibliographie, j'en parlerai tout à l'heure, parce qu'on a un libraire qui va venir et exposer ses livres et vendre ses livres là dans l'entrée là-bas. Et donc, je vous en parlerai juste avant qu'on s'arrête et qu'il arrive. Voilà. Donc, nous commençons notre parcours, notre introduction à Paul. Si je vais trop vite ou si vous ne suivez pas, vous me dites. Ça va ? Bon. Alors, connaître Paul, il faut des sources. Quelles sont les sources pour connaître Paul ? On a deux sources. Deux sources anciennes. Après, il y en a d'autres. Il y a des récits plus tardifs qui enjolivent. Il y a des tas d'iconographies, d'images. Enfin, les sources anciennes qui sont d'ailleurs toutes les deux dans le Nouveau Testament. La première source, c'est les Actes des Apôtres. Alors, généralement, c'est cette source-là qu'on connaît. Et en gros, tout ce qu'on connaît de Paul, sauf les passages incompréhensibles qu'on vous lit dans la liturgie le dimanche et que généralement le prêtre évite, comme la peste, de commenter parce que c'est trop compliqué. Et il y a des bonnes raisons. Paul coupé en petits morceaux, ça ne marche pas. Donc voilà. On connaît Paul par les récits des Actes des Apôtres. Alors, les récits des Actes des Apôtres, moi je ne vais pas beaucoup m'en servir. En fait, vous en connaissez sûrement pas mal, certains aussi bien que moi, mais il faut toujours les avoir en arrière-plan parce que c'est à peu près le seul cadre, sinon chronologique, du moins géographique et temporel, à peu près ferme qu'on ait pour Paul. Avec ses lettres, on n'arrive pas à reconstruire ce cadre. Il faut les Actes des Apôtres, étant bien entendu que les Actes des Apôtres ont été écrits bien après la mort de Paul. Je ne sais pas quand Paul est mort, mais les Actes des Apôtres, c'est facilement 30 ans après. C'est la fin du siècle, 90, quelque chose comme ça, au moins. Que c'est, et ça c'est explicitement dit, le second tome des œuvres de Luc, l'évangéliste, qui dit bien, dans mon premier discours, j'ai raconté, c'est le début des Actes des Apôtres, j'ai raconté ce qu'a fait Jésus de Nazareth, et maintenant, il raconte à nouveau ce qui se passe après sa résurrection. Donc, second tome, une première histoire de l'Église, évidemment, en historien, mais en historien de l'époque, c'est-à-dire qu'il travaille avec les moyens du bord, il a des renseignements, mais surtout, en historien de l'époque, on écrit l'histoire pour montrer quel est le sens de l'histoire. Aujourd'hui, un historien se risque peu à dire quel est le sens de l'histoire. Il laisse ça aux philosophes ou aux futurologues ou aux écologistes éventuellement, mais il ne se risque pas. L'histoire ancienne essaye toujours de montrer quel est le sens de l'histoire et qui l'amène, et Luc est très clair, le sens de l'histoire, dans les Actes des Apôtres, il veut montrer que c'est la parole de Dieu conduite par l'Esprit Saint qui va passer du monde juif et donc du centre du monde juif, Jérusalem, quand il écrit « Jérusalem est détruite », et qui va arriver au centre de l'Empire romain, à Rome. Et de fait, on part dans les Actes des Apôtres de Jérusalem, et à la fin, au chapitre 28, Paul est arrivé à Rome, qui est, pour Luc, qui est un occidental, le centre du monde. Ça va ? Cette parole de Dieu est conduite, portée par l'Esprit Saint, qui utilise comme intermédiaire les apôtres, Pierre d'abord, et puis Paul. Et c'est ça le but des Actes des Apôtres, et tout est reconstruit dans cette visée-là. Or, ce que les Actes des Apôtres veulent montrer en opérant ce passage, qui est d'ailleurs l'ordre même que le ressuscité donne à ses disciples, hein, vous serez mes témoins dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Extrémités de la terre, Rome, c'est le centre. Donc c'est l'ordre du ressuscité, et donc ça opère un passage du monde juif au monde païen. Donc la marche de la parole de Dieu selon Luc et le mouvement qui met en marche l'Église, c'est un mouvement qui fait sortir du monde juif, sans nécessairement l'oublier, il y aura beaucoup de judéo-chrétiens, mais qui conduit vers une annonce de la parole à tous, et notamment à cet immense monde païen que représente l'Empire romain. Or ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi, et donc il va falloir qu'il y ait des agents pour ça, et les agents, Luc va les mettre en scène, c'est Paul et Pierre, ou Pierre et Paul, dans l'ordre que vous voulez, probablement Paul le premier, la conversion de Paul est placée avant la conversion de Pierre, parce qu'il y aura une conversion de Pierre, quand il voit la vision des viandes impures qu'il doit manger, il y a une conversion de Pierre opérée par l'Esprit Saint. Et les deux vont se rencontrer au chapitre 15, au milieu exact des actes des apôtres, à Jérusalem, pour discuter avec les apôtres de Jérusalem, dont Jacques, le frère de Jésus, qui dirige la communauté de Jérusalem. Est-ce qu'on a le droit d'annoncer l'évangile aux païens ? Sous-entendu, sans les faire